VOA Afrique, les infos. À Washington.
Chérubin Dorsil. Dans quelques minutes, nous aurons notre programme Sahel Plus avec Claire Morin-Gibourg. Mais en attendant, voici un résumé des principales nouvelles du monde. On ouvre au Burundi, où le gouvernement a entamé des discussions informelles avec les opposants à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Bujumbura a été aujourd'hui quand même le théâtre de nouveaux affrontements. Idriss Fall.
Le pouvoir a accepté de discuter avec des éléments de la société civile et de l'opposition. Mais un participant à ces discussions s'est montré sceptique, disant que le gouvernement refuse de discuter du troisième mandat, ce qui, selon lui, est non négociable. La Cour constitutionnelle a donné raison au chef de l'État. Cette décision est rejetée par les opposants qui estiment que cette Cour est inféodée au pouvoir. Dans les quartiers de Bujumbura, à Kanyosha, la tension était vive entre manifestants et les Imbonerakure, une milice proche du pouvoir. À Kinindo, des policiers ont ouvert le feu pour disperser les manifestants. Des heurts ont aussi eu lieu à Chibitoke. Alexis Manirakiza, porte-parole de la Croix-Rouge, a fait état de 16 blessés. Depuis le début des manifs, les violences ont fait 14 morts. Et pour tenter d'éteindre le feu, les ministres rwandais, kenyans, ougandais et tanzaniens des affaires étrangères sont à Bujumbura pour tenter de rencontrer tous les acteurs et essayer de proposer des voies de sortie de crise.
La crise politique au Burundi inquiète les Nations Unies. Plus de 35 000 Burundais ont déjà fui vers les pays voisins, déplore le haut commissaire de l'ONU aux réfugiés. Au Rwanda, les réfugiés disent fuir des campagnes d'intimidation perpétrées par les jeunes du parti au pouvoir au Burundi. Le secrétaire général des Nations Unies a condamné la mort hier de deux casques bleus dans une attaque des rebelles des ADF à Beni, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. En revanche, les quatre soldats de maintien de la paix portés disparus ont été trouvés et sont sans danger. Dans le même temps, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, la MONUSCO, annonce des renforts pour une contre-offensive contre le groupe rebelle ougandais. Le point avec Eddie Isango.
L'ONU se rend à l'évidence que les groupes rebelles ougandais a bien gardé sa capacité de nuisance en dépit de l'annonce de la mort de certains de ses responsables et des arrestations d'autres la semaine dernière. Le commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général Jean Bayo, l'a admis mercredi. La veille, deux casques bleus ont été tués dans une embuscade d'une centaine d'hommes supposés être des ADF. Un jour plus tôt, un hélicoptère de la MONUSCO en patrouille a essuyé des tirs du même groupe dans la même région. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a fermement condamné les attaques des ADF. La MONUSCO a décidé d'envoyer des renforts dans la région et d'y déclencher une contre-offensive. Celle-ci pourrait se faire en parallèle avec l'opération lancée par l'armée congolaise qui a abouti la semaine dernière à la mort des 16 combattants, dont le numéro 3 des ADF, et la découverte des 4 fosses communes. La MONUSCO et l'armée congolaise ne font plus route ensemble depuis que la mission onusienne exige que des commandants congolais impliqués dans des crimes soient mis à l'écart, ce que les autorités congolaises refusent.
Et c'est dans ce contexte que l'Ouganda demande l'extradition du chef des ADF arrêté en Tanzanie en avril. C'est ce qu'indique la police ougandaise citée par l'AFP. Jamil Mukulu, qui serait âgé de 51 ans, est recherché par l'Ouganda pour une série de crimes, incluant des actes terroristes et des meurtres. Et nous restons dans la région. Plus de 400 enfants soldats ont pu s'échapper des groupes armés sévissant dans l'est de la RDC grâce aux opérations militaires en cours contre ces milices, estime la MONUSCO. Crise politique en Guinée. Le chef de file de l'opposition, Sélou d'Alain Diallo, accepte de rencontrer le président Alpha Condé vendredi au palais présidentiel. Et c'est ce que l'intéressé a déclaré à l'AFP. Cette rencontre ne nous fera pas changer le programme de nos marches et protestations envisagées cette semaine et la semaine suivante, sauf si nos revendications sont totalement satisfaites, a précisé le porte-parole de l'opposition, Aboubacar Sylla, à des journalistes ce mercredi. L'opposition guinéenne exige une révision du calendrier électoral. Le président mauritanien a affirmé hier à Nouakchott que l'esclavage n'existe plus dans son pays, mais qu'il reste des séquelles. Il accuse les ONG d'en faire un fonds de commerce, Claire Morin-Gibourg.
Pour Mohamed Ould Abdelaziz, l'esclavage n'existe plus en Mauritanie. Selon lui, il en subsiste des séquelles et il dit tout faire pour les traiter en allant vers les anciens esclaves et leurs descendants pour leur offrir de l'eau, des écoles et des routes. Son gouvernement a adopté en avril un projet de loi renforçant la répression de l'esclavage par des peines plus sévères. Le président mauritanien a accusé les ONG de saboter ses efforts en faisant de l'esclavage un fonds de commerce. Trois militants anti-esclavagistes, dont Biram Oulda Oulda Beyd, ont été condamnés le 15 janvier à 2 ans de prison pour appartenance à une organisation non autorisée. Leurs avocats ont fait appel. Des milliers de Haratines, les descendants d'esclaves, ont manifesté le 30 avril à Nouakchott pour réclamer justice et la fin des discriminations. L'esclavage a été officiellement aboli en Mauritanie en 1981 et depuis 2007, les personnes reconnues coupables d'une telle pratique peuvent écoper jusqu'à 10 ans de prison.
Au Niger, l'évacuation des habitants des îles du lac Tchad continue. Au moins 25 000 personnes ont déjà quitté leur foyer par crainte de nouvelles attaques de Boko Haram. Arrivés dans les villes de Nguimi et Bosso, ils vivent dans des conditions dramatiques, estime le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, cité par l'AFP. Violence intercommunautaire dans le nord du Kenya. Près de 75 personnes ont été tuées en 4 jours dans les affrontements liés à des vols de bétail. Tel est le bilan donné par la Croix-Rouge. Les hommes armés de l'ethnie Turkana sont soupçonnés d'avoir lancé lundi une attaque contre un village de l'ethnie rivale des Pokot, le long de la frontière entre les deux districts, une région qui est régulièrement le théâtre de violences entre ces deux communautés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le secrétaire d'État américain John Kerry se promet de discuter d'une pause humanitaire pour le Yémen quand il sera en Arabie Saoudite. Il l'a dit lors d'une escale aujourd'hui à Djibouti, ici à Kaba.
Selon l'envoyé spécial de la VOA, Pam Dawkins, le chef de la diplomatie américaine, a aussi annoncé une nouvelle aide de 68 millions de dollars pour le Yémen. Ces fonds appuieront les agences qui fournissent vivres, eau, abri et autres à 16 millions de Yéménites dans le besoin. L'Arabie Saoudite, pour rappel, a mené des raids aériens au Yémen contre les rebelles chiites Houthis qui cherchent à renverser le gouvernement de Sanaa. Monsieur Kerry a rencontré à Djibouti le président Ismaël Omar Guelleh et son ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Il les a remerciés pour leur assistance à des centaines d'Américains qui se sont réfugiés à Djibouti pour fuir la violence au Yémen, tout juste de l'autre côté du golfe d'Aden. Tout comme il l'a été hier en Somalie, John Kerry est également le premier secrétaire d'État américain à visiter Djibouti, où il a aussi rencontré les officiels américains au camp Lémonier. Cette base, dans l'ancienne colonie française de Djibouti, est devenue une partie importante de la présence militaire américaine au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est.
Les États-Unis ont proposé à leurs partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU de lancer une enquête pour déterminer qui est responsable des récentes attaques chimiques en Syrie, en particulier celle au gaz de chlore. C'est ce que rapporte l'AFP citant des diplomates onusiens. Cette enquête serait menée par des experts nommés par l'ONU. La Syrie est censée avoir détruit son arsenal chimique au terme d'un accord conclu en septembre 2013. Mais l'OIAC a conclu que du gaz de chlore avait été utilisé de manière répétée et systématique comme arme chimique en Syrie. Le Conseil de sécurité a menacé en mars de prendre des mesures si ces attaques se répétaient, mais il reste divisé sur la responsabilité. Élections en Grande-Bretagne, les législatives auront lieu demain jeudi. Le Premier ministre David Cameron et son challenger du Labour Party, Ed Miliband, ont poursuivi leur campagne jusqu'à ce mercredi. M. Cameron a promis qu'en cas de réélection, il organiserait un référendum sur la présence du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Autre question cruciale, l'indépendance de l'Écosse. Les nationalistes écossais ont perdu au plébiscite de l'an dernier, mais ils pourraient devenir le troisième bloc à la Chambre des communes et ainsi former une coalition avec les travaillistes. Selon les sondages, la course est beaucoup trop serrée pour les prédictions crédibles. La question de la dette grecque, encore dans l'actualité aujourd'hui. Athènes a pu faire un paiement de 222 millions de dollars d'intérêt hier, mais des doutes demeurent quant à la somme d'un milliard de dollars due le 12 mai. En cas de non-paiement, le statut de membre de la Grèce dans la zone euro pourrait être en danger. Le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, poursuit ses démarches auprès des partenaires européens en vue de maintenir la solvabilité de son pays dans la zone. Les institutions internationales de financement exigent des réformes économiques et budgétaires avant de verser de nouveaux fonds à la Grèce. La situation des déplacés en Asie du Sud demeure préoccupante avec plus de 4 millions de personnes ayant fui leur maison à cause des conflits et de la violence selon un rapport publié aujourd'hui à Genève. Nouvelles du Monde, Washington, chez Robin Dorsil.
Soyez
Soyez au cœur de l'info.